Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Allô?
Oui, bonjour, c'est Marion et Héloïse.
Ah oui, oui, oui. Vous êtes devant le portail?
On est devant
oui.
Le portail.
Ben, on vous ouvre. À tout de suite.
Ah, à tout de suite.
Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir.
Ressemblez à mes parents? Ah non, pas du tout.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Moulinex, libère la femme. Libère la femme. Libère la femme.
Bah, qui on va fréquenter? Les grands-mères?
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse, et aujourd'hui, nous allons chez Ziz.
On me dit des fois que je parle toujours d'ancien temps, parce que je comprends pas ces petits jeunes qui n'ont rien à faire, qui disent maintenant, je sais pas quoi faire. Ben non, on pouvait pas dire ça. On n'avait pas une minute à nous.
Asseyez-vous, prenez place.
Mamie Ziz est une de ces belles rencontres. Nous devions la rencontrer en mars 2020 à Lyon. Le Covid aura repoussé d'un an et demi notre déplacement, mais ça valait le coup d'attendre. Elle nous reçoit avec des gâteaux et du thé et nous nous installons. Mamie Ziz a une vie différente des femmes que nous avons écoutées jusqu'ici. Une enfance dans un pays, un canton bien loin de ce que nous connaissons aujourd'hui. Son enfance à la campagne est dure, elle le dit et le redit souvent. Et pourtant, la joie dans sa voix nous rappelle que le plus beau dans la vie, c'est la vie elle-même.
Mais vous voyez, ça change la vie. Ben, je suis née à Champagne-en-Belle-Romais, dans l'Ain. Je ne sais pas si vous voyez, c'est à 55 km de Genève. On est plus près de la Suisse. Et je suis née dans la ferme, ma maman l'a couchée là. À ce moment-là, il n'y avait pas de maternité. Ma maman, elle a eu 6 enfants, on est 6 chez moi. Et elle a toujours accouché là. Il y a eu un trou de 10 ans chez mes parents, d'enfants. On était 4. Que 4. Donc ma sœur est née qui est de 1925, après moi 1928, mon frère Jean qui est de janvier 31, et puis ma sœur Gilberte, et après plus, pendant toute ma petite jeunesse, on était 4 enfants. Et puis 10 ans après, c'est venu un garçon, en 42, oui, 32-42, sans savoir comment, et puis après en 44, un autre, que ma maman, elle avait honte, elle ne nous l'avait jamais dit. Moi j'avais 17 ans, j'ai su par la rumeur du pays qu'elle était enceinte. Rendez compte, c'était comme ça.
Pourquoi elle avait honte?
Ah ben je sais pas, d'avoir un enfant à 40. Elle l'a eu à 44 ans. Elle était de 1902, ma maman. Puis elle l'a eu en 44, en fin d'année. Je sais pas, elle disait pas, elle disait rien du tout. On a su quand elle a accouché. Donc j'ai un petit frère qui a 75 ans encore.
Mais vous l'aviez pas vue enceinte?
Ça se voyait pas.
Ça se voyait pas?
Pourtant elle était mince, hein. Elle a toujours... Ça ne voyait pas, je vous assure qu'on ne savait pas.
Et quand vous avez entendu les rumeurs, vous n'avez pas osé le demander à votre mère?
Mais non, parce qu'on disait après, si elle nous l'avait dit, eh ben peut-être qu'on l'aurait soulagé plus en lui disant, on l'aurait laissé reposer, on aurait fait ça pour pas qu'elle se fatigue. Mais ils nous ont jamais rien dit. Et là, cette nuit-là, je me rappelle bien, c'était le 26 novembre, et à ce moment-là, il n'y avait pas le chauffage central. Maintenant, la ferme, ils ont le chauffage central. Et mon père, dans la soirée, qu'elle devait accoucher, elle devait commencer à être malade, mais ils nous ont rien dit, rien, jusqu'au bout. Il a mis, on avait un petit four, un petit chauffage, un petit machin rond, qu'il a mis dans la chambre, pour chauffer la chambre, pour qu'elle accouche quand même. C'était glacé, vous rendez compte, fin novembre. Alors dans la nuit, on l'avait transporté ce truc, il a mis les cornets, et puis dans la nuit, elle a accouché dans la nuit. Et le lendemain matin, c'est... À 6 heures, une voisine qui nous l'a fait voir, notre petit frère, qui était tout blond.
y a une voisine qui était venue l'aider à accoucher.
Voilà, puis qui venait pour faire la toilette aux petits, il n'y avait pas d'infirmière. Et mes deux petits frères, les derniers, ben, ils les ont fait instruire. Alors les deux derniers ont été instruits, ben, nous, les quatre premiers, rien du tout. Et ben, autrement, ma petite enfance, au début, j'avais la grand-mère, la maman de mon papa qui était avec nous, mais qui était dans l'enfance. Que ma pauvre maman a eu du travail. Parce que cette grand-mère, elle est morte, j'avais 3 ans et demi. Et mon petit frère, maintenant Jean, qui a 3 ans de moins que moi, il avait 6 mois. Et la grand-mère, elle se faisait toute sous. Il n'y avait pas de machine à laver. Vous savez, quand je repense ma pauvre maman, c'est pour ça qu'elle est morte à 67 ans. Fatiguée, usée. Voyez, on aurait dit une vieille. Quand on pense maintenant aux jeunes de 67 ans. Ah ouais. Vous voyez, autrement, ma petite jeunesse, on a toujours travaillé dur. Hein. C'est pas rien d'être enfant de cultivateur. Et puis mon papa, il était dur. Il nous aimait, il faisait tout pour nous, mais il fallait travailler. Et ceux qui n'étaient pas travailleurs, ils étaient des bons rien. Pour lui, même le dimanche, il fallait aller garder les vaches. Tout le temps. Moi, je veux vous dire, à l'école, mes cartes de France, je la connais par cœur, la carte de France. Je les ai couchées dans l'herbe en gardant les vaches. Et j'ai appris toutes les préfectures et sous-préfectures de la France entière. Mais toujours avec les vaches et la chèvre. On avait une chèvre qu'il fallait se méfier parce qu'elle venait manger nos livres. Ouais. On faisait du blé, beaucoup du blé à ce moment-là. On faisait de l'avoine, de l'orge. L'avoine et l'orge, c'est pour donner aux vaches. On faisait des betteraves sucrées, des betteraves comme il y a dans le Nord, que maintenant, ils n'en font plus de tout ça. C'était pour donner aux vaches, parce que maintenant, c'est tout mécanique. Alors, ces betteraves, on en faisait des grands champs. Et alors, les vacances de Pâques, c'était Cayenne. Il fallait aller tendre les taupinières. Vous savez ce que c'est, les taupinières? C'est les taupes qui font des bosses dans les prés. Alors, avec un machin, il fallait tendre les taupinières pour pouvoir faucher. Que maintenant, ils ne regardent pas. Avec les tracteurs, tout va bien, on ne fait rien. Il fallait nettoyer les prés. Il fallait, on se met l'avoine et l'orge au printemps. Alors, on était toujours derrière mon père, vous voyez, parce que le blé, ça sème à l'automne, que l'avoine et l'orge, ça sème au printemps. Même pour faire ça, il fallait labourer avant. Alors, comme on avait des vaches, on mettait 4 vaches, 2 et 2, les vaches avec un joug, je ne sais pas, vous n'avez pas connu ça. On attelle les vaches, elles étaient 2 et 2, parce que c'était dur pour tirer la charrue. Et puis après, il fallait passer l'herse. La charrue, elle fait des traits, vous savez. Alors on passait l'herse pour faire droit. Puis après, mon père semait. Et c'était tout à la main. Alors, je ne sais pas, vous avez jamais vu quand il sème. Enfin, comme une corbeille, on appelait ça des benons, nous là-bas, avec une croix, là. Et puis, il fallait qu'il sème. Alors, il avançait, hop, puis après, hop, hop. Et puis, nous, il fallait qu'on soit là-bas pour faire marquer où le grain va jusque-là. Alors, on mettait des petits piquets, vous voyez, des petites branches partout. Parce que quand il revenait, pour savoir jusqu'où allait le grain, pour ne pas se mettre de faux au même endroit, on était toujours avec mon père. Et puis, on faisait de la vigne. Alors, quand il sulfatait, il fallait lui porter les seaux de sulfate. On était toujours derrière.
Et vous dites, on était toujours avec mon père. Et du coup, votre mère, elle faisait quoi?
Eh bien, elle est petite parce qu'on était 6. Alors, les autres, ils sont tous après moi. Alors, mais elle allait souvent dans les champs quand c'était pour les foins, les moissons, il fallait quand même. Hein. Mais nous, aussitôt qu'on a pu, à 7-8 ans, je veux dire, on revenait de l'école avec ma sœur aînée, parce que j'ai une sœur aînée qui avait 3 ans de plus que moi. Eh bien, on arrivait de l'école à 4h30 à ce moment-là, et l'école était 1 kilomètre. Eh bien, il y en a une qui portait le lait à Champagne, au pays, à la fromagerie, parce que là-bas, on faisait le gruyère, comme on est dans l'Ain, pas loin des Savoies. On avait un fromager qu'on appelait ça le fruitier. Il habitait là-bas à côté, il était logé, on le payait au mois. Il faisait ses gros fromages, 40 kilos, tous les jours. C'est pour ça que j'ai vu faire les fromages dans ces gros chaudrons en cuivre. Et mon père, il était président de la coopérative. C'est lui qui se débrouillait quand il venait marchand de fromage pour les prix, pour tout ça. parce que mon père, malgré qu'il était dur, mais il était très intelligent pour un cultivateur. Il avait été deuxième du canton au certificat d'études. C'était quand même pas mal. Et puis ma maman, elle savait à peine écrire, elle savait à peine son nom. C'était malheureux. C'est pour ça qu'elle dit. Elle dit, allez à l'école le plus possible. Moi, je vais avec ton père, je vais dans les champs pour pas qu'on manque l'école. Elle voulait pas qu'on manque. Elle voulait qu'on soit, qu'on sache écrire et lire.
Ils étaient aussi durs pour l'école. Ils voulaient vraiment que vous...
Oui, 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 mais enfin, il y a des choses qu'ils n'ont pas faites que j'ai du regret. Parce que moi, j'apprenais bien l'école, c'est pas pour me vanter. Mais l'institutrice était venue les trouver après en disant « Mais votre fille, c'est quand même dommage, je ne vais pas la faire instruire plus que ce chalet au certificat d'études, c'est tout. C'est quand même dommage, faudrait, ça vaut la peine, elle apprend bien, ma sœur aînée apprenait pas bien. Et il fallait que mon père, tous les soirs, lui fasse ses devoirs, enfin. Et puis, ils n'ont pas voulu parce qu'ils avaient besoin de moi. Ben, ils ont réfléchi, ils ne pouvaient pas bien se passer de moi. Parce que quand on était encore plus petite, on prenait un valet, un commis de ferme. Pendant qu'on était, on pouvait pas travailler quand on était tout petit. On a eu, moi j'ai connu encore des valets quoi. Et même pendant que mon frère était au régiment, celui qui est après moi, on a repris quand même aussi pour aider mon père, le plus gros quand même. Il faut deux hommes. Il comptait sur nous, vous comprenez. On n'avait pas de garçon, après c'était mon petit frère. On était les deux filles, les deux premières, il fallait travailler. Alors quand je vous dis, quand on revenait de l'école, il y en a une qui portait le lait avec une charrette à lait, de gros bidons, il fallait monter une côte, hein, parce que c'était un kilomètre. Nous, on habitait un petit pays Charron, et on est porté à Champagne, où il y avait la fruitière. Et puis l'autre, eh ben, on lui faisait des tartines de beurre ou de confiture, puis on détachait les vaches, allez, en champ, allez garder les vaches. Vous savez, le temps, on n'avait pas de temps à nous. J'avais même une copine qui habitait longtemps à Villeurbanne qui venait me voir des fois un jeudi comme ça. Puis mon père l'envoyait promener. Parce qu'elle faisait, elle veut nous perdre le temps. Vous vous rendez compte? Elle me faisait perdre mon temps, je ne pouvais pas travailler comme il aurait voulu.
Et du coup, vous avez passé le certificat d'études à quel âge?
12 ans, l'année des 12 ans.
Et après, vous avez travaillé avec votre papa?
Ouais, voilà.
Tout le temps.
Et à 12 ans, le jour de mon certificat d'études, les bombes tombaient. C'était ce jour-là, le jour même. Alors, j'ai passé à 12 ans, en 40. J'ai dû le passer vers le 15 juin 40, en plein pendant la guerre. Ouais, ouais. Mais enfin, déjà, on a eu l'électricité tout le temps. Qu'il y a des endroits, je ne sais pas, je pense à les beaux-parents d'origine, ma fille, qui est de Bretagne, ben, elle dit que lui, il a un an de moins que moi, il était né en 1929, il a connu l'électricité quand elle est arrivée. Que moi, j'ai toujours vu l'électricité. Vous voyez, alors on n'était quand même pas trop arriérés. Et puis moi, il y a toujours eu l'eau sur l'évier, il y avait l'eau dans les tables, tout déjà, quand je suis née, il y avait tout ce qu'il fallait déjà. Je vous dis, on n'arrêtait pas. Le soir, encore en rentrant, tourner la manivelle du concasseur, on concassait l'orge, tourner la manivelle, là, avec ma sœur, tout ça. Qu'avant, c'était tout à la main.
Et avec vos frères et sœurs, ça se passait comment?
Bien, parce que, vous voyez, on était nombreux, mais on s'aime bien. Encore maintenant, on se téléphone toutes les semaines.
Et les récoltes, vous alliez les vendre après? Comment ça se
passait? Oh non, mais le blé, ça servait tout pour les vaches. Mm-hmm. Chez mes parents, on vendait le lait. C'était surtout le lait. Mais maintenant, encore plus. Maintenant, ils font que le lait. Mais mon père, il faisait aussi des pommes de terre. Et puis les nouvelles, juste au mois de juillet, ils les vendaient aux colonies de vacances qui venaient, des petits Lyonnais. Là, il y avait des colonies que ça n'existe plus. Maintenant, ça n'existe plus tout ça. Alors, ils vendaient ça et puis ils vendaient un petit peu du vin. On faisait un petit peu du vin.
Ah, Mamie Ziz, la rapidité et l'énergie de sa voix ainsi que les histoires qu'elle raconte nous captivent. Difficile de ne pas se projeter dans cette ferme avec ses sœurs et ses frères. Elle continue son récit avec ses souvenirs de la guerre en pleine campagne française.
Et les souvenirs de la guerre
La guerre, alors on a vu la guerre aussi, enfin, il y a tellement des choses à vous dire. 40, on n'a rien vu, puis on n'avait même pas la télé, on ne savait pas grand-chose. Pour ça, mon père, il a toujours été abonné au journal. C'était le nouvelliste à ce moment-là. Enfin, le facteur nous apportait le journal tous les jours. Alors, on savait un peu par le journal. Mais nous, la politique, on s'en fichait à ce moment-là. Mais alors, la 44, à la débâcle, quand il y a eu le maquis, parce qu'après, tous les jeunes qui ne voulaient pas partir au STO, vous savez ce que c'est le STO en Allemagne, il fallait qu'ils se cachent. Alors, ils ont fait le maquis dans la montagne. On avait beau être patriote, mais le maquis, des fois, il volait les poules, il volait dans les maisons pour manger. Il fallait bien qu'il mange. Mais mon père, il a été, comment on appelait ça, obligé, les nuits, il allait pour surveiller les avions qui venaient déposer des armes au maquis. Il a fait une ou deux fois la nuit. Puis après, ben, il n'y a plus fait, je ne sais pas pourquoi. Mais il est allé quand même, vous voyez. Il était trop vieux pour faire n'importe quoi. Et puis alors, quand ça a été vraiment à la fin, avant le débarquement, que le maquis commençait à croire que la... Nous, on nous disait qu'on avait gagné, c'était la victoire, qu'on avait gagné. On ne voyait rien dans nos campagnes. Alors, ils avaient fait des embuscades pour pas que les... Parce que les Allemands sauvaient. Et puis, ils avaient mis partout des arbres en travers, tout ça. Puis après, il y a eu des Allemands qui ont été tués. Et puis après, eh ben les Allemands, ils ont fait des otages. Alors, ils ont brûlé tout un pays. Ça s'appelle Saint-Maurice. Alors, nous, on les voyait brûler, on a vu les flammes, on a vu tout brûler. Et les Allemands, tous les jeunes étaient cachés, partis dans les montagnes. Et mon père, à ce moment, il avait pas 50 ans encore. Et il avait fait une brocoupe de meunier en plein été. Eh bien, les Allemands fouillaient notre maison. Avec la mitraillette, ouvrir tous les placards pour voir si on n'avait pas caché des maquisards. Et ils ont, mon père qui était dans le lit, ils l'ont découvert. Quand ils ont vu qu'il avait des ventouses, vous savez ce que c'est les ventouses, dans le dos. Maman lui faisait des ventouses, des verres. Quand ils ont vu qu'il avait des ventouses, ils l'ont laissé tranquille. Mais il n'aurait pas les ventouses, mon père, il était fusillé dans le lit. C'est affreux. Puis le matin, le garde champêtre avait corné que tous les jeunes, de tel âge à tel âge, fallait vers le bac. Tous ceux qui ont été déportés, on ne les a plus revus, ça n'est revenu rien. Au début, ils étaient à Paris, à côté de Paris, là-bas, où il y avait un camp. Après, ils ont été emmenés à Mauthausen. Et puis voilà, puis ils n'en est presque point revenu.
Et le jour de la libération, il s'est passé quelque chose dans la campagne ?
Alors, à tout moment, les maquisards, ils revenaient dans les campagnes quand les Allemands repartaient. Ils revenaient, ils avaient mis le drapeau à la mairie, croyaient qu'on était libres. Les Allemands revenaient, oh là là. Alors ils ont fait sauter les magasins avec des grenades. Il y a eu même le maire de notre pays qui a été tué chez lui, dans la maison, par une grenade. Il nous faisait des représailles. Et puis après, on n'entendait plus parler, ça y est, les Américains arrivaient. Et je me rappelle quand des Américains sont arrivés avec des copines de mon âge, on allait regarder en bas, il y avait une route plus nationale. On a vu les tanks qui arrivaient et les Américains qui nous jetaient des chewing-gums. J'ai connu tout ça. On ne connaissait pas, on n'a jamais parlé de chewing-gum à ce moment-là. C'est là qu'on a connu ça, ouais. J'avais 16 ans. 16 ans. Et oui, j'étais descendue sur la route en bas, la route de Vieux, parce que c'est plus grand chez nous, après il faut monter. La route est moins grande. Ils n'ont jamais monté. Les tanks d'Américains, ils n'ont jamais monté dans mon pays. Ils passaient en dessous. 3 km en dessous, là, la route. Enfin, puis après, on était tranquilles. Quand même. Hein. Mais enfin, non, mais la guerre, on a quand même vu des choses, malgré tout.
Et vous vous souvenez de l'école ? Comment ça se passait, l'école, avant le certificat ?
Oui, ben oui. Bon, alors, on avait la maternelle jusqu'à 7 ans. Ça allait bien, puis à 7 ans, on montait à la grande école, parce que la maternelle était en bas, en dessous, c'était, voilà. Oui, ben, il y avait 3 rangées, parce que 3 cours différents, en fait, il y avait le cours GP, le cours moyen, enfin, il y avait 3 rangs. Et puis, autrement, après, on avait une institutrice qui était dure, mais qui nous a bien appris. On leur en parle souvent, mes enfants. C'était une vieille fille, mademoiselle Sens. Mais alors, elle, c'est qu'elle ne voulait pas avoir d'échec au certificat d'études. Il fallait aller au certificat d'études. Mais elle était dure, 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 l'histoire de France, qu'il fallait apprendre 5-6 pages les soirs. Mais enfin, maintenant, moi, je suis bien contente parce que j'aime bien parler d'histoire de France. Ouh, elle est sévère, sévère. Oh là là, l'anecdote de ma sœur, je ne sais pas si je raconte. Ma sœur, qui a 5 ans de moins que moi, elle n'avait pas fait quelque chose comme il faut, j'en sais rien. Alors elle l'a mis au grenier pour nous punir. Le grenier de l'école, remarquez, ce n'était pas ça le grenier. Mais enfin, elle était au grenier. Et puis elle n'a pas pensé à midi, ma sœur n'est pas rentrée 11h30 pour aller manger. Et bien mes parents avaient tellement peur de cette institutrice, ils n'ont rien dit. Alors nous, on est rentrés manger parce qu'on était à 1 km de la commune. On faisait 4 km tous les jours. Hein. Alors on est descendu manger. Et bien Gilberte, elle n'était pas là, ben elle était punie. Et puis la maîtresse a oublié. Et puis on retourne à 2h. Et puis sa place était vide. Et puis cette mademoiselle s'en dit, mais ta sœur, elle est malade, Jean, pourquoi elle ne vient pas? Puis il lui dit, mais je ne sais pas, elle n'est pas venue manger. Il dit, oh là là, elle avait laissé dans le grenier. Ça ne pourrait pas se passer comme ça maintenant, hein. Oh là là, c'est sûr, hein. Quand je pense des choses.
Est-ce que vous avez eu une éducation religieuse?
Oui, ah oui, ah oui. Ah pour ça, catéchiste, les matins, 7 heures, avant l'école. Et quand il y avait de la neige. Et puis un curé qui était dur aussi. Si on arrivait un petit peu en retard, hein, je vais bien vous dégniller, qu'il nous disait. Puis il nous mettait à genoux sur la pierre pendant un grand moment. Ah non, vraiment, autrefois c'était dur quand même. Moi, je n'ai jamais vu qu'on était fatigué. Non, il fallait marcher, faire. Alors, vous voyez, on allait au catéchisme à 7 heures. Après, à l'école, ben, c'était dans le même pays, dans la commune. Catéchisme, après 8 heures l'école, puis après, on revenait manger à midi, on repartait, on revenait à 4h30. Et l'été, fallait porter le lait, fallait aller au champ. L'hiver, c'était mieux. Sinon, il y avait des belles veillées le soir, avec les voisins. On jouait un petit peu aux cartes. Et puis, quand on était un peu plus grand, eh ben, mes parents allaient chez d'autres voisins, plus loin. Puis tous les autres jeunes venaient chez nous. Puis quand c'était mes parents, c'était chez moi, on allait chez eux. Les jeunes ensemble. Alors, on a quand même eu des bons temps.
Et vous aviez le temps de lire ou de dessiner?
Ah non, fallait pas lire. Ouh là là! Mon père, fallait pas perdre son temps. Ma pauvre sœur, Odette, celle qui est décédée, là, qui était plus âgée que moi, il y avait une copie, elle avait prêté des petits livres, des petits romans, vous savez, des romans d'amour. Et puis, on n'avait jamais le temps de dire. Alors, un jour, en mangeant, et on mangeait, puis elle avait dit, regardez-les. Puis mon père, plusieurs fois, Dédette, tu sais qu'allez, on n'a pas le droit, faut pas lire. Et puis, elle a quand même incité, il a pris le livre, et hop, il a déchiré en deux. Entier, ça a déchiré en deux, il était costaud quand même, hein. Je veux dire, ah ben non, c'est pour ça, on sait ce qu'on a appris à l'école, mais ailleurs, on n'a rien appris.
Quand vous étiez à l'école, vous rêviez de faire un autre métier, de faire autre chose, de continuer quelque chose qui vous...
Non, pas du tout, mais on disait, on ne veut pas se marier avec un cultivateur. Ah non.
Vous vouliez arrêter de faire ça?
Ah oui, oh là là, et ma sœur aînée me disait pareil, on ferait n'importe quoi, mais pas ça. On avait trop marre, on ne pouvait pas... Je veux dire, mais on n'avait pas une heure à nous. Hein? Même quand il y avait la fête au pays, à Champagne, il y avait la Vogue, vers le 22 août. Alors ce journal avait quand même le droit de sortir. Alors on gardait un pré où on ne mettait pas les vaches pendant un mois pour qu'il y ait de l'herbe, de la bonne herbe. Puis ce jour de la Vogue, on les mettait là. Alors comme il y avait de la bonne herbe, elles se gardaient toutes seules parce qu'il n'y avait pas de parc à ce moment-là, du tout. Et puis elles étaient saoules vite fait, c'est-à-dire pleines. Alors après, on avait le temps d'aller à la Vogue. Alors quand on était petit, mes parents nous emmenaient à la Vogue. Et là... Il nous faisait faire des tours de manège. Et puis, on nous payait, on allait au café, on buvait un verre de limonade. Enfin, c'était quelque chose de formidable, la limonade, à ce moment-là. Voilà. Puis, quand on était plus grand, ben, on y allait tout seul. Hein. Et il y avait un bal le soir. Mais ça, on a eu droit, quand on avait au moins 16, 17 ans, bon point. Mais il fallait pas rentrer un peu minuit. Oh là là, si j'étais en retard avec ma sœur, je sortais avec ma sœur aînée. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais une sœur plus vieille. Autrement, elle m'aurait pas laissé sortir. Et quand on montait l'escalier, on faisait attention, ça craquait un peu pour pas que mes parents entendent. Je vois que c'était quand même... c'était dur, quoi. Mon adolescence, mais c'est-à-dire qu'après, que j'ai connu mon mari, j'ai connu la veille de mes 17 ans. j'avais mes grands-parents, les parents de ma maman, qui habitaient à Châtillon-la-Palue. Ils étaient là-bas, ils avaient eu une ferme aussi, mais une petite ferme qu'ils avaient achetée à la retraite. À la retraite. Ma sœur aînée, ou moi, on allait chacune de nos tours avec la grand-mère. Alors on allait là-bas, chacune de nos tours, un mois, deux mois, l'hiver. Parce que l'été, non. Enfin, l'été, je ne sais pas comment je débrouillais. Les premiers temps que j'étais là-bas, il y avait des petits bals clandestins, parce que c'était en 45. En 45, alors, il n'y avait qu'un an que y a de la libération. Moi, on ne savait pas ce que c'était qu'aller au bal, c'est pour ça. On ne savait pas trop danser. Alors, il y avait la maison de ma grand-mère était là, il y avait la grande route nationale, Lyon-Genève. Et puis, il y a une jeune qui s'appelle Noël, là. Elle est venue me chercher, puis demander à ma grand-mère, est-ce que Ziz pourrait venir là, c'est juste là. Alors, ma grand-mère lui dit, ben oui. Alors, il n'y avait qu'à traverser la route, là. Alors, il y avait plusieurs jeunes du coin, là-bas. Puis c'est là, mon mari m'a fait danser, mais je ne le connaissais pas du tout. Il m'a fait danser une ou deux fois, comme ça. Je ne me rappelle même pas comment danser, j'en sais rien, enfin bon. Et puis après, tous les soirs, j'allais chercher du lait pour ma grand-mère. Puis mon mari m'attendait. Ils avaient les heures que j'allais. C'est comme ça que j'ai connu mon mari. Alors après, ben, on s'est connus, donc on s'est fréquentés. Après, le 5 juin, 5 avril, il est venu chez nous pour la première fois.
5 avril 45.
45, l'année de mes 17 ans. Il est venu chez mes parents, pour la première fois qu'il est venu. Puis après, ben, quand il était à l'armée, il m'écrivait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis après, il a été à Dole, dans le Jura. Il était dans l'aviation.
Et vous, c'était le premier homme un peu que vous rencontriez ou quand vous étiez à la campagne, il y avait quand même d'autres garçons?
Ben, j'en ai eu aussi, mais enfin, ma fille, elle n'aime pas que j'en parle. Un qui était valet de ferme, enfin valet parce que le pauvre, il était de Lyon, de la Croix-Rousse. Et puis pendant la guerre, comme ils crevaient tous de faim, il y a beaucoup qui allaient chez les cultivateurs pour être nourris, au moins. Il avait un an plus que mon mari, celui-là. Et puis, ben, on s'aimait bien, enfin... On essayait, quand on portait le lait à la fruitière, eh ben avec nos charrettes. Alors, on s'attendait tout le temps. Alors, s'il y en a qui passaient avant, ils mettaient une pierre là, voilà. Enfin.
Vous mettiez une pierre?
Et c'était mon premier amour. Il s'est fait prendre par les Allemands. Il a été déporté à cause de moi.
Pourquoi?
Parce que je l'ai laissé, parce que mes parents ne voulaient pas, ne voulaient pas, parce qu'il était de la ville, parce qu'il n'avait pas de métier, parce que...
Il s'est fait prendre par les Allemands?
Oui. Dans la rue. Ben... Le 4 février 44, il a été emmené justement, il est resté à Mathausen tout le temps, il en a bavé. Moi après, je l'ai vu après à Toulon chez ma sœur aînée. Il a vu qu'on l'emmenait au four crématoire, ils hurlaient. Les frères, enfin moi que j'ai connu, hein, des jeunes.
Et lui, il est rentré?
Il est rentré, mais alors, mec comme ça, méconnaissable, bout de cheveux, tout rasé, affreux. Mais mes parents ne voulaient pas. Puis il n'allait pas à la messe, mes parents étaient bigots. Oui, c'est compliqué. Hein.
C'était
mon premier amour. Voilà. Puis après, j'ai eu mon mari. Voilà.
Vous êtes écrit tous les jours quand
lui il m'écrivait tous les jours, mais moi, non. Je n'avais pas le temps. À la campagne, vous voyez.
Et lui, il continuait d'écrire.
Il écrivait, puis il n'y avait pas de timbre à ce moment-là. On mettait FM, FM, franchise militaire. Et on ne mettait pas de timbre. Oui, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ben, il est resté 10 mois. Puis après, quand il a été démobilisé, parce qu'il était engagé pour la durée de la guerre, comme il avait le droit de démobiliser, et comme il était dessinateur industriel, il a cherché du travail, et il a trouvé du travail à Terre-Noire. C'est à côté de Saint-Étienne, c'était loin, hein. Et bien, il venait presque toutes les semaines, mais des fois pas, parce que c'était le train, il fallait payer, il n'était plus à l'armée. Et puis après, voilà, puis après il a été représenté à Lyon, puis on s'est mariés. Il y avait 3 ans qu'on se fréquentait, on a voulu se marier quand même. Enfin, deux ans et quelque chose. 45, on s'est connus le 31 janvier 45, à ce fameux bal. Enfin, c'était pas un bal, dans chez les voisins. Voilà. Et on s'est mariés le 7 juin 47. Ben, on a décidé qu'on pouvait pas éternellement faire cette comédie, là, le pauvre.
Et vous étiez amoureuse?
Ah oui, ben oui, ah oui. Puis lui aussi. Hein. Alors, on s'est mariés le mois de juin 47. Et puis, je suis restée quand même encore un peu chez mes parents pour leur aider la boisson. Puis après, quand je suis venue à Lyon, comme on était sous les toits, il y avait des moustiques. Oh là, je n'avais jamais vu ça, moi. Des moustiques. Il fallait mettre de la bombe, on ne pouvait pas dormir, que je suis restée 2-3 jours, je suis retournée chez mes parents. Puis après, mon mari a cherché encore un autre logement. On était au 6e étage, rue Fénelon, à Lyon. Puis après, il a trouvé, mais on demandait des reprises. On ne trouvait pas d'appartement après la guerre. Impossible, hein. Mon père nous a prêté pour qu'on puisse avoir un appartement. Alors après, je suis venue habiter boulevard des Brotteaux.
Et si on revient un petit peu en arrière, comment c'était le jour de votre mariage? Comment ça s'est passé?
Oh là là, on était 50. Si, ça s'est bien passé. Mais mon mari ayant pas de famille, c'est mes parents qui ont tout payé. Et pauvre.
Et c'était une grande fête? Vous avez fait la fête
Trois jours. Trois jours, presque quatre. Parce qu'il y a eu la grève des chemins de fer le lundi. Oh oui, moi j'ai des photos. Je ne vais pas vous ressortir les photos, mais enfin... Le vendredi soir, à ce moment-là, il n'y avait pas les voitures. C'était tout à pied. Alors, du petit pays, on est monté à Champagne. À pied, tout le cortège, au bras de mon père. Bien sûr.
Il était fier, votre papa?
Oui. Puis j'étais un peu sa chouchoute, un peu moi. Hein? C'est vrai. J'étais sa chouchoute à mon papa.
Et pourquoi vous étiez sa chouchoute?
Je ne sais pas, parce que je ressemblais à son frère qui avait été tué à l'âge de 14. Tout le monde lui disait que je ressemblais à Jean. Son frère. Le samedi à midi, on a fait le mariage, parce que c'était le matin, le mariage. Alors, on était plus de 50 à table. Le soir, à 8 heures du soir, on a refait pareil. Le lendemain, c'était le baptême de ma nièce, la fille de ma sœur aînée. On a fait le lendemain, alors encore, là. Et puis là, il y a eu la grève des chemins de fer. Impossible de partir, toutes. Ma tante de Villefranche, ma tante, toutes, sont toutes restées. Vous rendez compte, moi quand j'y pense, mes pauvres parents, le souci. Mais ils avaient pris 2 cuisinières puis 2 serveuses. Hein. On avait fait un bazar, tout débarrassé, la salle à manger, avec le gros buffet, tout mis dans la grange. Écoute, il y en a eu pour 3-4 jours à préparer avant, hein, pour laisser toute la place. Puis après, il y avait mis des tréteaux. Enfin, puis on avait des cuisinières. Hein, parce que quand même. Alors pour repartir, eh ben, le lundi, comme il n'y avait toujours pas de train, eh ben, ils ont pris un petit car. Ils ont payé tous ceux qui partaient loin. Il y avait la vogue, mais ils ont fait arrêter le car, ils ont fait la vogue en passant. Toute la bande. Il y avait beaucoup de jeunes. Et puis voilà, puis je suis venue à Lyon, puis je ne pouvais pas travailler, je n'avais pas de métier. Faire quoi? Et puis j'étais enceinte après.
Ah, vous êtes tombée enceinte tout de suite?
9 fois après. Je parie le 7 juin, le mois de mars. Alors donc... Eh bien, j'ai rien fait, je m'ennuyais. Et puis voilà, puis après j'ai eu ma fille, et ben, enfin, je me suis occupée d'elle. Et puis après, comme j'ai eu 5 enfants en tout, j'ai jamais travaillé en dehors. Alors là, j'étais nounou, là, quand ils étaient grands. Je gardais des enfants chez moi.
Et ça vous a jamais manqué de ne pas travailler à l'extérieur?
Je ne savais pas ce que c'était, mais ma fille me dit que je ne sais pas ce que c'est, elle me dit. On voit que maman, tu n'as jamais eu des collègues Les femmes entraient, des fois, sont un peu jalouses. Moi, je ne connais pas ça. Je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais sorti de chez moi. C'est le cas de le dire. Hein. Non, mais après, la deuxième, qui était après ma fille, ben, on l'a perdue. Elle a eu la toxicose, une maladie. Elle est décédée, elle avait 14 mois. C'est dur aussi, hein. C'était affreux. On a eu des moments durs dans la vie, durs. Elle a commencé à prendre la diarrhée un vendredi soir. Le lendemain, on voyait ses yeux se creuser. Mon mari, il a fait, je ne sais pas quoi, un voyage chez le docteur, on n'avait pas le téléphone. Le docteur est venu à 5 heures, on l'a emmené à l'hôpital. La petite avait perdu connaissance, elle ne nous regardait plus. Elle avait 42, il paraît-il, on l'a su le lendemain, elle était morte le lendemain. Elle a fait après une encéphalite. Et puis après, puis mon pauvre Gilles, là, celui-là, ben c'est lui, j'ai eu des problèmes pour l'accouchement. J'ai fait une hémorragie après, que je manquais mourir. Il est né le 14 juillet 53. Et j'ai fait une hémorragie de la délivrance. Si on n'était pas venu me voir dans la nuit, ben je baignais dans mon sang. Je ne sentais pas. J'avais tellement souffert pour le faire. Il faisait 4 kilos sans sang. J'avais tellement souffert que je ne regardais plus. Et on m'a emmené au bloc, on m'a fait un curetage. Enfin, il y avait un caillot qui empêchait l'utérus de se refermer. Enfin bon, j'ai failli mourir là déjà. J'ai eu des transfusions à ce moment-là et tout. Ouais.
Même dans les moments difficiles, Mame Isis ne calme jamais le rythme de son récit. Toutes les deux, nous tentons de suivre le flot de sa vie, sans l'interrompre des 1000 questions qui nous viennent. Alors que parfois, nous sommes déstabilisés par la dureté de ses souvenirs, elle continue à nous raconter chaque anecdote et moments importants de sa vie.
Et ça vous a pas manqué de beaucoup, beaucoup travailler et du jour au lendemain de...
Si, quand même. J'étais timide. J'avais jamais vu la ville. Mon mari m'a emmenée une fois parce qu'il avait une tante, mais qu'il ne voyait pas souvent, mais qu'il avait proposé que j'aille chez elle, parce qu'à ce moment-là, mes parents ne m'auraient pas laissé partir comme ça. On n'était pas mariés encore, hein, à ce moment-là. Alors, on couchait chez la tante. Alors, j'avais jamais vu un ascenseur, j'avais jamais vu un tramway, j'avais jamais rien vu. Vous savez qu'à 19 ans, quand même, on est bête, hein. Oui, le téléphone, voilà. J'avais peur du téléphone. Bon, il n'y avait pas de téléphone, c'était une cabine, il fallait aller téléphoner à la cabine. Quand j'accouchais d'un enfant, quand on a eu Gilles, celui-là, mon père était tellement fier d'avoir un petit garçon, parce qu'il avait deux filles. Ma soeur, il en avait deux filles, moi j'en avais déjà deux. Et puis quand Gilles est venu, il était tellement fier, à téléphoner à la cabine, une cabine téléphonique chez Ford, mais c'était pas des cultivateurs, là. Mais en fait, on avait le droit d'y aller, on payait le téléphone, quoi, c'est tout. Mais eux, ils venaient nous avertir quand on nous appelait ou quand, voilà. Quand on l'annonçait qu'on avait un garçon, mon père était fou.
Pourquoi ils voulaient un garçon particulièrement?
Ah, parce que les garçons, c'est tout. Et lui, les filles, c'était grand-pa, c'est pas pareil.
Les filles, c'est quoi?
C'était rien. Ah. Dans les campagnes, enfin, c'était mon père surtout, hein. Les filles, c'était bon pour aider, pour faire le ménage, pour travailler. C'est pour ça qu'on avait un petit métier. On n'avait pas de métier, les filles. Mon père, il avait une seule sœur. Elle a été bonne à Paris, là, gouvernante, toute sa vie.
Et l'arrivée dans la ville, donc du coup, vous êtes arrivée dans Lyon même.
Oui. Boulevard des Brotteaux, j'habitais.
Et c'était comment d'arriver dans
Mais je n'osais pas trop aller loin. Oh, puis j'étais timide. Puis après, quand j'avais ma fille, alors j'allais la promener au parc, j'avais le parc de la tête d'or à côté chez moi. Et j'y allais, mais il y avait des gens qui venaient, mais des jeunes, puis moi, j'osais pas, des femmes, qui venaient, qui me prenaient même le berceau pour m'accompagner, des gars que je n'avais jamais vus. Ça serait maintenant, hein, je les aurais envoyés promener. Mais j'osais pas. J'étais timide. C'est pour ça, faire quoi? Je suis arrivée, j'étais enceinte de 4 mois, parce que je me suis mariée en juin, et je suis venue au mois de septembre. Faire quoi, quand on n'a pas de métier?
Et vous vous êtes fait des copines à Lyon?
Ben, des copines de mon pays, de mon pays qui étaient aussi, qui ont fait comme moi, Marie. Alors on se voyait le dimanche, les après-midi, on s'invitait pour le café. Et puis après, ben, plus tard, bon, j'en ai connu d'autres. Alors tous les jeudis, on faisait le café. On était 4. Donc il y en avait 3 du pays de Champagne, puis une qui était dans la Savoie, mais qu'on a connu là, nos filles. On s'était connus avec nos enfants quand on est les cherchait à la maternelle. On était 4 tous les jeudis, un sur l'une, sur l'autre, sur l'autre. Hein, et puis on faisait une bonne tarte. Enfin, tous les jeudis, c'était ça. Comme
et vous faisiez quoi pendant ces goûters
On tricotait. Qu'est-ce qu'on tricotait à ce moment-là? Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu faire des pulls?
Et vous parliez, vous?
Ah oui, on parlait, puis on parlait de nos pays. Et puis après, quand j'étais à la retraite, que j'étais aussi à Champagne, dans ma maison, qu'on a fait construire là-bas, et bien là-bas, on avait un clan, c'était le lundi. Aussi le café, tous les lundis. Et maintenant, ben, plus personne. Alors après, ben, je gardais des enfants. Alors même avec les petits, j'allais chez les gens. J'y allais avec les poussettes. Voilà, ça fait que j'ai été nounou. Jusqu'à que, quand mon mari a pris la retraite en 84, pendant encore un an, je les ai gardés, je crois.
Et comment c'était d'élever 5 enfants en même temps? C'était comment votre vie avec 5 enfants?
Oui, mais moi, ils étaient espacés, hein. Ils n'étaient pas les uns sur les autres. Ma fille avec son aînée, elle a 16 ans de différence. Alors, pour le dernier, elle m'aidait déjà bien. C'était une vraie petite maman, même pour l'avant-dernière. Hein. Et oui, il était en 48. Je l'ai eu à 20 ans pile. On a 20 ans de différence.
Vous étiez jeune à 20 ans.
Ben oui. Puis responsable d'un enfant, puis j'étais toute seule à Lyon. Mes parents étaient à 100 km. Je ne peux pas dire que je pouvais demander des conseils, hein. Ah oui, vraiment, quand j'y pense, on était quand même, on avait les pieds sur terre, hein, quand même.
Donc vous avez dû apprendre à être maman. Ouais.
Comme ça, mais j'avais vu ma maman avec mes petits frères. Mais enfin, j'étais gamine, vraiment. Que là, ma fille, là, on est habité au Brotteaux, elle est tombée de la table. Parce que quand je lui faisais sa toilette, je mettais sur un oreiller, sur la table. Et puis, je suis allée rincer le garde-toilette à l'évier, parce qu'il n'y avait pas de salle de bain à ce moment-là. Rien que le temps de rester, elle a roulé. Elle est tombée, point de mal, mais bon, elle aurait pu faire du mal, hein. Mais après, vous rendez compte, je ne faisais plus. Après, je la tenais un pied avant. Pour dire, mais j'avais juste 20 ans, j'étais jeune, hein.
Et votre mari, vous aidait un petit peu?
Un petit peu quand même, enfin, avant les maris, ils n'aidaient pas beaucoup. Mais enfin, il aimait beaucoup ses enfants, hein. Ah, vraiment, il aimait ses enfants, vraiment.
C'est-à-dire quoi, un petit peu, il faisait quoi avec les enfants?
Ben, il était gentil avec eux quand même, hein. Mais on ne peut pas dire qu'il savait mettre les couches. Et il a mis les couches à la deuxième parce que j'ai pris des abcès au sein. J'avais 41 températures. J'avais tellement du lait. Ben, il s'occupait, il a changé les couches et tout, qu'après, il ne faisait pas. Ça ne se faisait pas comme ça, les maris, hein. Et puis moi, ça ne me choquait pas. Parce que moi, chez moi, mon père, il ne faisait rien à la maison. Ah non, rien. À table, il faisait servir. D'ailleurs, mon frère qui est après moi, il a pris l'habitude comme ça. Il ne fait rien. Il fait maintenant parce que sa femme, elle ne peut plus marcher. Mais autrement, il venait pour manger, il était toujours dans les champs, il venait, tout, il fallait tout leur mettre. C'était comme ça. J'ai jamais conduit, c'est dommage.
Vous n'avez jamais conduit ?
Non.
Pourquoi ?
Parce qu'on a pourtant une voiture depuis que ma fille avait un an. On était les seuls dans le coin à avoir une voiture. Mais mon mari, il était représentant, il était toute la semaine parti. Alors la semaine, j'avais pas de voiture. J'aurais eu le permis, ça ne servait à rien. Je disais, on ne voulait pas avoir de voiture pour faire quoi ? Vous savez, quand j'ai eu Régine, la quatrième, parce que j'avais perdu déjà Martine, alors j'étais contente d'en avoir encore un peu après. Mais quand j'ai eu Régine, elle faisait 4,5 kg. Et 4,5 kg, elle ne voulait pas passer. Hein. Elle est née le 24 juin, mais alors, ils ont sonné les docteurs, ils étaient tous après moi m'appuyer, m'appuyer sur le ventre. Enfin, je ne croyais pas coucher, j'ai supplié, mais endormez-moi, c'était affreux. Elle ne voulait pas passer, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, mais elle va étouffer, votre bébé, il va étouffer, allez. Enfin, ils m'en ont tellement dit, puis j'aurais dit, alors ils me disent à ce moment-là, quand ils ont vu qu'elle faisait 4,5 kg, le prochain, il fera 5 kg. Ou je dis, moi, il n'y en aura pas de prochain. Et puis j'ai eu quand même Eric, que j'étais drôlement embêtée. Et j'ai fait le régime, mangeais pas ma faim, et puis tout sans sel pendant 2-3 mois. Et il faisait quand même 3,750 kg, en faisant le régime et tout. Hein.
Et vous n'étiez pas trop angoissée d'accoucher après avoir accouché de...
Si, quand même, si.
Et après, pour ne pas en avoir d'autres après, vous avez
fait... j'ai rien fait, mais on faisait attention.
Qu'est-ce que vous avez fait alors pour éviter de rester enceinte ou de tomber enceinte?
Ouais, ça ne se dit pas. C'était des dames à Lyon, des femmes de représentants que je ne connaissais pas beaucoup, que j'étais tellement embêtée, avec une feuille de lierre. Mais il fallait faire ouvrir le col de l'utérus, il fallait faire prendre l'air. Avec la queue du lierre, enfin, avec la grande queue, c'est souple. Parce que moi, je ne sais pas, j'aurais jamais essayé une cuillère. Mais les aiguilles, ça se disait, les avorteuses avec les aiguilles à tricoter. Mais c'est raide, donc tu pouvais te percer.
Le lierre, la plante ?
Oui, le lierre qui pousse après les arbres, mais qui a une grande queue. Juste fallait que ça passe prendre l'air à l'ovaire, moi j'en sais rien à quoi, comment c'était. Et puis après, j'ai fait une hémorragie.
Et donc vous avez dû vous faire un curetage à l'eau ?
Eh bien oui, on m'a emmené sur un brancard, hein, parce que je perdais du sang à flot.
Et vous l'avez fait deux fois ?
J'ai fait deux fois, oui. Non, il y a une fois que ça s'est tout bien passé.
Et votre mari, il était au courant ?
Oh ben bien sûr, vraiment de tout lui alors.
Et c'était une décision commune ?
Ben oui. Oh ben il est assez embêté, hein, que, aussi, pour lui. Oh ben oui, parce que vraiment, j'ai un mari. Chaque que je dis, on lui disait tout, vraiment.
Et quand vous avez fait l'hémorragie, que vous êtes allé à l'hôpital,
voyons.
Vous avez dit ce que vous aviez fait, parce que c'était illégal.
Mais c'était encore l'Hôtel Dieu, puis c'était des sœurs. Alors on a été mal vus, hein. Des fausses couches, hein, oulala, elles étaient méchantes avec nous.
Mais elles savaient que c'était des fausses couches provoquées ?
On leur disait pas. Ben non, on aurait pu aller en prison, dites, à ce moment-là.
Et donc du coup, juste pour essayer de comprendre, vous comprenez que vous êtes enceinte, vous décidez de... vous voulez pas le garder, et comment vous en arrivez à avoir l'information qu'il faut faire ça ?
Mais on en parlait, parce que mon mari, on fréquentait les représentants entre eux. On se voyait les dimanches. Souvent, on faisait des fondues, on faisait là ensemble avec leurs femmes. Et puis c'est elles qui m'ont donné ce tuyau, qui m'ont dit ça. J'aurais jamais pensé ça.
C'est-à-dire que vous êtes allé chercher une feuille de lierre ?
Oui, quand on allait à la campagne, Eh bien, j'ai ramassé une lulière. Alors, il fallait que la lulière ait une grande queue, que c'est que ça soit lent. Parce qu'après, il fallait pas qu'on puisse les attraper.
Mais vous saviez comment faire ou...
J'ai fait toute seule. Mais même mon mari, je sais même pas si je le dis. Ah non, parce que lui, il était tellement strict.
Et vous avez perdu beaucoup de sang après, quand même.
Eh bien, l'hémorragie, oui. Alors, c'est bien lui qui est allé chercher le docteur. Ah oui, j'aurais pu mourir. Hein.
Mais les autres femmes qui vous ont dit de faire ça, elles le faisaient.
Et pareil, elles l'avaient fait.
Elle
l'avait fait plusieurs fois et ça se passait tout bien.
Et elle vous avait expliqué un peu comment faire ou...
Oui, un petit peu comme ça, mais c'est tout. Mais c'est moi toute seule, personne... Même mon mari n'a pas touché à ça. Oh non, du tout. J'ai jamais pris la pilule de ma vie, jamais.
Et vous vous souvenez quand il y a eu la loi Veil ?
C'était bien quand même. Oh ben je sais sûr, oui. Oui, on a été contents d'être la loi Veil. Mais moi, elle m'a jamais servi. Parce que j'avais déjà la ménopause... Eh oui, c'est pour ça que maintenant je dis que c'est une chance. Je vous assure, parce que nous, tous les mois, c'était l'appréhension. Ouais. Est-ce que les règles vont venir ? Oh là là.
Et est-ce que la ménopause, ça a changé du coup au niveau...
Oui, quand même, oui. Mais même, j'avais quand même peur au début. Je me dis, est-ce que c'est bien vrai ? Est-ce que c'est bien vrai que la ménopause, on n'en a plus ?
Et la ménopause, comment vous avez su que c'était la ménopause alors ?
Eh bien, j'ai rien su du tout. J'ai su comment. C'était un peu l'année de mes 50 ans. Mes règles venaient des jours, des fois, puis après, il restait 2-3 mois pas, puis après, un petit peu, puis après, un petit peu plus, puis après, l'année de mes 50 ans. Puis ça s'est arrêté comme ça, mais personne ne m'a rien dit, je n'ai jamais vu un docteur, je n'ai jamais rien pris. Je n'ai jamais rien pris, moi, la ménopause.
Comment vous avez su que c'était ça, alors, après ?
Parce que j'entendais la télé, puis c'était vraiment... j'étais sur mon fauteuil, je grelottais, un moment après, je transpirais, je me découvrais tout, je remettais... Que j'en ai eu au moins pendant 20 ans. Hein. Ah oui, c'est fou. Il n'y a pas tant longtemps que j'en ai plus. En fait, une dizaine d'années quand même, bon, pour dire. On n'était pas initié de rien, ma pauvre. Moi, j'ai appris des choses à la télé. Là. Beaucoup, beaucoup. Moi, j'étais bécassine, j'étais chez la campagne. Je n'avais pas tout ça. Je ne connaissais pas ça. C'est pas ma mère qui voulait me dire ça. Ça risquait pas.
Ouais. Vous parlez de votre éducation, c'est ça ? Vous n'aviez pas d'éducation
sexuelle ? Pas du tout, mais jamais. Moi, on n'a jamais parlé de ça, jamais. Jamais. Moi, je me suis mariée à 19 ans. J'ai été enceinte tout de suite, parce qu'on n'avait pas d'éducation sexuelle. Mais je me demande pourquoi c'était honteux. Et je me rappelle à ce moment-là, il y avait des serviettes hygiéniques. Vous savez, je ne sais pas, c'était des carrés d'éponge, puis il y avait une bande qu'on accrochait pour accrocher devant et derrière. Puis ma maman, elle repassait ces trucs-là. Elle les repassait. On repassait avec le fer sur le fourneau. Voilà. Puis je me rappelle, ma sœur aînée, elle disait, mais ça sert à quoi, sa maman ? Ça sert à quoi quand elle les voyait repasser ? Puis ma maman, mais ça ne te regarde pas, mais ça te regarde. Oh, ils n'ont rien à nous dire. Alors, oh, mais je demanderai à ta tante. Je demanderai à ta tante Marie-Louise, qu'elle disait. Parce que notre tante, elle était bien plus jeune. Puis on ne l'a jamais demandé, remarquez. Puisqu'après, on l'a su quand même. Mais ma mère ne nous a jamais dit que c'était... Parce qu'on avait des règles. Ah non, non.
Et après,
on a su par les copines, par tout le monde comme ça. Puis...
Et elle vous a donné des serviettes hygiéniques ou quoi ?
Oui, elle nous a acheté des serviettes hygiéniques, oui. Mais en tissu, là. Il fallait les laver, les passer à la javel, ça partait pas de sang.
Et donc la première fois où vous avez saigné, vous n'avez pas eu peur ?
Mais non, parce que je savais par les copines, par tout le monde. Moi, j'ai jamais vu ma mère, mon père nu. Hein. Jamais. Ma maman, j'ai vu les seins parce qu'elle donne la tétée à mes petits frères, mais c'est tout, hein. Et encore, moi, je trouvais qu'on était en avance à côté de la Bretagne. Je dis, quand je suis née, moi, il y avait quand même l'électricité partout, il y avait l'eau partout. Que en Bretagne, c'était encore vraiment ancien temps, hein, vraiment. Je trouvais qu'on était dégourdis. Et pourtant... Mais enfin... Quand même, quand on y repense, on a eu beaucoup de bons moments. Quand même.
Mamie Ziz aura été la première mamie de notre Tour de France. Et quel démarrage ! Une rencontre fleuve avec une personnalité si vive et atypique. Un cadeau qui nous a donné l'impulsion et l'énergie pour la suite de notre itinéraire si riche. Un grand merci à Carole et à Rodolphe pour avoir permis ce moment.
Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à @mamiepodcast et par email à bonjour@mamiedanslesorties.co. À bientôt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.